Bonsoir Adicias, ou bonjour, vous êtes bien à l'écoute de l'émission Et si demain sur Esprit Occitanie, www.espritoccitanie.fr, avec tous les podcasts et les rediffusions des émissions. Et je remercie Alan Delahaye et Valentin Sirug qui sont à la réalisation, parce que sans réalisation technique, pas d'émission. Au micro, Christian Moreto, mais pas que. L'indicatif est signé de Damien Moreto. Et si demain nous retrouvions une humanité, ça serait peut-être super. En tous les cas, le collectif L'Autonomie 31 en serait sans doute ravi. Et je retrouve avec plaisir Savita, bonjour, qui était venue avec Cédric Héroux et puis un jeune aussi qui était là. Et il y en a un autre qui est arrivé. Et puis, il y a également Inès qui est là. Bonjour, bonsoir. Donc, en deux mots, le temps que j'appelle aussi, normalement, nous allons essayer d'avoir une communication téléphonique aussi avec Yves Carchon, qui, lui, est auteur de Polar. Ça s'appelle Les Vieux Démons et c'est paru aux éditions du Cairn. Mais d'abord, qui veut répondre à la première question? Que représente et qu'est le collectif L'Autonomie 31?
Bah du coup, Inès. Ouais, le collectif Autonomie, c'est un collectif qui prend son jalon sur un décret du 12 avril 2016, où le Conseil départemental a décidé de manière unanime et avec un fort dispositif policier de voter trois décisions. L'une qui était l'arrêt des prises en charge hôtelières pour les parents qui accompagnaient des enfants de moins de 3 ans. L'arrêt des prises en charge pour les mineurs isolés étrangers et l'arrêt des contrats jeunes majeurs qui concernent des jeunes qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et qui a un accompagnement spécifique des 18 à 19 ans. Voilà, ça c'est le terreau, cette délibération amène la création de mobilisation devant le conseil départemental où on a pu rencontrer beaucoup de jeunes. Les mois ont passé et un dispositif que le conseil départemental a nommé le DAOMI, qui est un dispositif d'évaluation des nouveaux mineurs isolés étrangers qui arriveraient sur le territoire à Toulouse. Et ce dispositif est une délégation des services publics, enfin de nos collectivités, de cette mission de la protection de l'enfance en danger. Et depuis, donc là c'est le troisième été, où on a accompagné plus de 600 jeunes qui sont en recours de minorité devant la juge des enfants, puisque ce dispositif les a évalués et mis à la rue. Du coup, ces jeunes font valoir leurs droits en reconstituant, avec l'aide du collectif, un recours, avec des avocates, avec aussi Autonomie, c'est un lieu pour les jeunes de vie, puisque depuis le 12 octobre 2017, nous avons réquisitionné un lieu qui se trouve à la Glacière, au nord de Toulouse. C'est un hôtel-restaurant où il y a une cinquantaine de jeunes qui sont en attente de leur audience devant la juge des enfants. On a aussi on n'arrive pas tout de suite à la réquisition. Il y a plus d'un an et demi où il y a un réseau d'hébergeants solidaires, des gens comme vous qui nous écoutez, ou des gens comme nous qui sommes autour de la table, qui sont susceptibles de dire on ne va pas laisser faire. On ne va pas laisser faire que nos collectivités, à un moment, se désengagent de leur responsabilité de faire une distinction entre les jeunes étrangers et les jeunes français. Du coup, il y a un réseau d'autonomie de profs, d'une centaine d'hébergeants, de gens qui viennent donner des coups de main, et il y a surtout des jeunes. Donc peut-être Souleymane, est-ce que tu peux nous donner une définition de qu'est-ce que c'est l'autonomie, parce que peut-être tu en dire autre chose.
Oui, l'autonomie en fait, c'est une collectif qui héberge des jeunes mis à la rue des Daomi. En fait, après avoir évalué de leur parcours et tout, et en fait ils nous discriminent et nous mettent à la rue. Et du coup, il y a le collectif qui est là. Et il y a les jeunes qui n'arrivent pas à s'en sortir. Dès qu'on leur lâche, on leur expulse de Daomi, là, il y a le collectif qui soutient toujours les jeunes qui sont déjà mis à la rue. Et donc, nous sommes là pour juste un temps de faire le recours devant la juge des enfants et pour reconnaître nos minorités et tout. Voilà.
D'accord. Alors, Savita, comment tu t'es retrouvée, toi, au sein justement du collectif L'Autonomie 31? Tu es tombée par hasard, boum, tu t'es cogné le nez et puis tu es rentrée et puis voilà, et tu as aidé des jeunes comme ça, mineurs.
Presque. En fait, trois jeunes mineurs isolés ont débarqué dans ma vie il y a 3 mois. Ils sont arrivés de l'Italie à Béziers. À Béziers, une amie les a hébergés. Et elle m'a ensuite appelée en me disant bah, sur place à Béziers, il y a très peu de perspectives pour eux. À Toulouse, la juge des enfants semble beaucoup plus compréhensive. Donc, on te les envoie. Et donc, voilà, c'est comme ça que je commence l'aventure et ça continue.
D'accord. Et donc, et Inès, toi, c'est aussi parce que tu avais des convictions humanistes et que tu ne voulais pas laisser faire.
Alors non, je ne le dirais pas dans ce sens-là. C'est une lutte politique. C'est une lutte politique en tant que personne... enfin, professionnel dans le milieu du travail social, mais pas que, c'est une action militante de pouvoir à un moment décider de pas laisser faire le conseil départemental, la préfecture, la police aux frontières, la protection de l'enfance en danger, puisque donc du coup, on monte ce collectif avec quelques militantes et militants. Et du coup, pour nous, il y a un message important aussi, c'est qu'un jeune est un jeune, quelle que soit sa nationalité. Du coup, on pose des lignes politiques qui refusent l'évaluation d'un mineur ou d'un jeune isolé étranger, puisque ces dispositifs n'accueillent que des migrants, aucun enfant français ne sera mis dans ces dispositifs. Donc on dénonce une... Donc c'est bien politique, c'est dépasser un intérêt personnel et le mettre dans une dimension collective. On a une histoire croisée entre ces jeunes qui viennent principalement des pays d'Afrique subsaharienne. On a une responsabilité parce que la France-Afrique, on a une responsabilité parce que les multinationales, Areva, Total et j'en passe, sont dans ces pays. Donc, en fait, une simple action, que ça soit donner un coup de main et rencontrer ces jeunes, est politique, en fait. La manière dont on va s'organiser collectivement pour tendre vers une autogestion suffisante pour un moment, parce que nos liens de solidarité qu'on va pouvoir créer, l'État ne va pas pouvoir les casser. C'est des liens qu'on pourra saboter, nous, parce qu'on dérapera à des moments. Mais par contre, cette solidarité qui se fera entre jeunes, habitantes et habitants de Toulouse et ailleurs, ce sera de ces îlots qu'on pourra, créer une résistance. Par contre, voilà, donc c'est aujourd'hui... voilà, des centaines de jeunes qui ont pu être reconnus dans leurs droits, mais n'empêche que ça continue puisqu'il y a des jeunes qui ont... En fait, on a aussi attaqué le conseil départemental, enfin des jeunes avant la construction de ce dispositif d'évaluation. Les jeunes étaient mis à l'hôtel, dans des hôtels pourris de Toulouse. Et aussi, donc c'est des choix politiques, économiques, que le conseil départemental décide de laisser des jeunes, 250 jeunes, à l'hôtel, moisir, jusqu'à leur majorité, pour les expulser, en faire des sans-papiers comme les autres. Du coup, avec des avocates, nous avons pu, nous, actrices, enfin militantes de terrain, pouvoir, et jeunes concernés, pouvoir créer un plaidoyer et amener à ce que, oui, au-delà d'une reconnaissance du droit Mais c'est surtout une prise en compte de la situation aujourd'hui. Là, en été 2018, plus personne ne peut dire les jeunes isolés étrangers sont bien reçus en France. Nous sommes conscients de cette réalité, qu'il y a un gros problème d'accueil, de prise en charge, de prise en compte de la situation globale. On ne pourra plus s'arrêter à une gestion du flux, qui ne sont pas au courant de mauvais protocoles en mauvaise pratique. Donc nous sommes dans une bataille en même temps de besoins fondamentaux et aussi de plaidoyer politique.
D'accord. Je te remercie pour ces précisions. Alors nous avons, je reviens vers toi bien sûr, nous avons normalement au téléphone Yves Carchon, bonjour. Oui, alors je ne sais pas, on n'a pas de... Bonjour, le retour, il est... Allô, allô ?
Oui.
Oui, ça va mieux là, je crois que nous t'avons donc au téléphone donc Yves Carchon. Là, je passe du coq à l'âne puisque nous parlions d'accueil de jeunes réfugiés qui sont laissés pour compte dans nos sociétés. Et toi, tu viens de publier Les Vieux Démons, Yves Carchon, aux éditions du Cairn. C'est un polar qui fait référence à la fois à la Seconde Guerre mondiale, mais aussi à ce qui s'est passé pendant justement la libération, on va dire, de l'Algérie.
Oui, alors effectivement, Les Vieux Démons, c'est un nouveau polar, avec donc cette fois-ci Fragoni, donc mon personnage fétiche, qui va s'amener à devoir.
Allô ? Alors, oui. 60-61. Alors attends, on a quelques soucis. Ouais, mais ouais. Oui. Allô, allô. Ouais, ouais. Oui. On a un petit problème, Moni. Eh oui, alors, on n'entend plus. c'est le souci, tiens, je te laisse. Donc, nous allons avoir dans quelques instants peut-être Yves Carchon au téléphone, ou alors on essaie avec le tien, peut-être. Allô, allô. Attends. Oui. Attends. D'accord. Alors attends, nous sommes en direct, mais il va falloir refaire le numéro. Je vais te rappeler sur un autre téléphone. On raccroche et je te rappelle sur un autre téléphone.
Allez. Les problèmes de téléphone.
C'est le direct. Là, nous ne trichons pas. Et merci, Alan, de m'avoir prêté ton téléphone. Et c'est parti. J'espère. Oui, l'appel est en cours, donc pour avoir Yves Carchon au téléphone, si c'était possible. Sinon, je te passe le téléphone et en attendant, je redialogue puisque l'appel est en cours, mais l'appel n'arrive pas. C'est le direct dans l'émission « Et si demain ?» Tiens, je te passe le... Ouais. Ok. Merci. Allô ?
Oui.
Oui.
Ça m'a l'air plus clair, effectivement.
Voilà. Donc, c'est parti cette fois. Tu es là ou tu n'es plus là ? Ouais, je crois que nous l'avons perdu. Ça, c'est le problème des liaisons téléphoniques. Je crois qu'on essaiera à nouveau peut-être vendredi matin, ou alors tu restes avec le... Parce que c'est vrai qu'en plus, les communications ont du mal à passer dans le studio. Il va falloir améliorer ça à l'avenir. Avec nos excuses, chers amis auditrices et auditeurs, donc nous revenons dans le studio et dans l'émission « Et si demain ?» pour parler donc du collectif L'Autonomie 31. Donc ce qui se passe là, mais on l'a vu aussi très récemment, puisque nous avons accueilli dans ces studios et dans le cadre d'une émission spéciale « Traversée » dont le podcast est en ligne sur www.espritoccitanie.fr, Cédric Héroux, qui a été condamné pour délit de solidarité. Alors là, effectivement, il y a une interrogation que nous avons vis-à-vis du mot fraternité qui est pourtant sur le fronton de nos mairies. Qui veut répondre à ça, ou quelle est votre réaction, Savita, Inès ou Soliman? Il y a une méditation dans le...
Bon, Moi, je ne sais pas, ce mot-là, de le prendre une position confraternelle, me pose questionnement. Enfin, je trouve ça... Enfin, peut-être on a l'espace de discuter sur la sémantique des mots, mais... Du coup, effectivement, moi, je me reconnais pas dans une position fraternelle, d'une position qui ressemble qui prend racine dans une position en fait, pour moi, hein, de je te regarde comme je sais où je vais t'aider, etc. De construire une lutte avec des jeunes et les premiers concernés, c'est plutôt comment nous pouvons avoir une position plutôt de réflexion micro-macro. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ces jeunes ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'on fait de politique avec ces jeunes qui ont des répercussions sur des réalités géopolitiques entre leurs ambassades respectives et la France et les lois sur l'immigration ou contre l'immigration, enfin, et du coup, et de construire comme ça une conscientisation politique de nos responsabilités en tant qu'actrices ou de se dire on va pas laisser faire, on va passer à l'action, d'y mettre un sens politique.
Moi, par contre, le terme de délit de solidarité m'a vraiment étonnée, en fait. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, quoi ? Comment c'est...
Comment c'est de la fraternité, hein, moi.
Oui, oui. Mais comment c'est possible d'avoir associé ces deux termes ensemble, en fait ? Puisque pour moi, la solidarité, déjà, elle est naturelle. Donc, et puis, je ne vois pas en quoi la loi pourrait nous interdire d'être juste humain et naturellement solidaire. Et ensuite, le lien avec la fraternité, pour moi, je le ferai sur le fait que, pour moi, il y a des, enfin, on a décrété des frontières, mais en fait, sur la base de quoi ? Et moi, je me considère avant tout humaine, et je trouve que, effectivement, ce terme de fraternité vient nous rappeler ça, en fait, qu'on fait partie de l'humanité, et qu'il n'y a pas de différence entre nous en termes de droits et aussi en termes de valeurs. Donc, voilà, effectivement, je trouve que ce délit de solidarité, il est particulièrement étonnant dans un pays où la devise républicaine affichée sur toutes nos écoles est liberté, égalité et fraternité.
Et avant, c'était ou la mort.
Oui, en plus.
Donc, a priori, on serait plutôt, nous, très conformes, en fait, à la Constitution républicaine, en étant des citoyens qui ne sommes pas indifférents à ce qui se passe devant nous, devant notre porte, dans notre ville.
Oui, et c'est le souci, Souliman, est-ce que tu as envie d'apporter, est-ce que tu peux nous dire, mais si tu as envie de nous le dire simplement, raconter, qu'est-ce qui a fait que tu es... Parce que c'est jamais forcément des choix faciles de quitter son pays, son appartenance, pour partir et être considéré comme un réfugié, quitter ses racines, c'est pas toujours avec plaisir qu'on le fait.
Oui, carrément. Bah, dans notre pays, il y a des problèmes quand même politiques, je veux dire. Et du coup, entre les citoyens, il y a du racisme qui s'impose. Et du coup, on n'arrive pas à s'entendre. À chaque fois, il y a des conflits, tu vois. Et du coup aussi, il y a des gens qui s'attaquent. Par exemple, il y a les opposants qui sont de différentes ethnies. Par exemple, il y a les Malinkés, il y a les Soussou, il y a les Peuls, tu vois. Et il y a des opposants qui sont Malinkés, et il y a les autres qui sont des Peuls, et il y a les autres qui sont des Soussous. Et souvent, chacun essaie de supporter son
camp, en fait.
Ouais, son camp, par exemple. Si tu vois un opposant qui est Soussous, j'essaie de faire tout que lui aussi, il va avoir ses élections pour qu'il gagne. Et en fait, voter pour lui, voilà. Et du coup, il y a des gens qui s'imposent aussi de dire non, c'est pas évident de dire que si par exemple, si tu es peul, tu vas voter pour un peul, Tu vois, tout ça, ça amène toujours des conflits. Mmh. Et du coup, il y a dans des résultats aussi, dans les résultats aussi, on voit qu'il y a des on triche tous.
Il y a des malversations, voilà, des tricheries.
Voilà, des tricheries et tout. Et qui amène toujours des conflits entre les ethnies. Mmh. Et tu vois, et du coup, ça c'est pas souhaitable de rester dans cette condition. À chaque fois, il y a des harcèlements des jeunes, entre jeunes. Et du coup, on a, nous, par exemple, aussi, il y a des, au moment des études, on a envie d'étudier vraiment, mais quand même, chaque fois, il y a des grèves et tout, on n'arrive pas à bien maintenir au terme d'études, tu vois. Et on a décidé tout, et il y a les gens souvent qui décident de quitter parce que ça ne va pas. Et du coup, voilà. C'est ça ce qui fait que tout souvent les jeunes qui quittent de leur pays, c'est ce genre de choses souvent qui arrivent et à ce qui leur impose de quitter au pays. Parce que ça ne va pas du tout. Chaque fois, il y a des harcèlements, il y a des guerres entre ethnies. Et c'est ça.
Donc c'est pas facile et du coup... les familles se déchirent. Enfin, là, je ne veux pas aller après poser des questions qui sont trop indiscrètes, mais tu es arrivé seul avec des amis en France?
Non, je ne suis pas arrivé seul. J'avais un frère aussi qui avait assisté à une grève aussi, qui a été lieu chez nous. Et du coup, lui aussi, au moment des conflits, lui aussi, il a été détecté par la police. Et les policiers voulaient lui choper à chaque fois qu'on arrive à attraper un citoyen, c'est dans la prison. Et du coup, ce serait compliqué de le libérer, enfin.
Oui, donc c'est une forme de dictature.
Oui, oui. Si tu sors, on t'attrape, c'est fini, tu es dans la prison. Et ce n'est pas facile de te libérer. Mmh. Et du coup, il y a les jeunes qui essaient, par exemple, qui ont su qu'ils ont été détectés par la police, ils essaient de fuir, de quitter.
Mmh. Oui, donc c'est réfugié politique, quelque part, par rapport à ce qui se passe. Et ça a été le cas chaque fois au niveau d'un certain nombre de dictatures. Et puis nous avons parlé aussi, et ça sera aussi de plus en plus, des réfugiés climatiques. Puisque malheureusement, à ce niveau-là, les choses ne s'arrangent pas non plus. Mais bon, tout n'est peut-être pas perdu, mais il y a du boulot donc, pour le collectif L'Autonomie 31.
Moi, je suis particulièrement touchée, en fait, depuis que je rencontre des jeunes et que j'apprends par petites bribes, en fait, certaines choses sur leur pays, effectivement, de l'insécurité qu'ils peuvent rencontrer au quotidien. Et quand on dit insécurité, nous, on se projette dans nos rues à Toulouse en disant « Oui, bon, peut-être des fois, ils peuvent avoir des problèmes, faire des mauvaises rencontres. » Non, en fait, enfin, clairement, dans plusieurs des pays qui, aujourd'hui... créer de l'immigration, il y a clairement un vrai problème de sécurité. Ils ont peur pour leur vie. Enfin, on ne quitte pas son pays par plaisir et par choix. Quitter sa famille, quitter ses amis, quitter sa culture, se retrouver à toujours risquer sa vie pendant un an, puisque aujourd'hui, un voyage, quand on part de Guinée, c'est à peu près un an pour arriver jusqu'en France. Puisqu'en fait, ce qui se passe aussi sur le chemin, on n'en parle pas assez, c'est qu'il y a tous les trafics humains dans lesquels très souvent les jeunes se font prendre. Donc on parle notamment du cas de la Libye. Enfin, moi, en tout cas, je ne suis vraiment pas très calée sur les questions géopolitiques. Je peux juste témoigner des témoignages que j'ai reçus. Mais de plusieurs jeunes qui ont été pris pendant 6 mois, des fois 8 mois, dans les trafics humains. Donc c'est clairement de l'esclavage moderne, hein. Ça se passe de manière très très simple. Les passeurs en fait prennent les jeunes, les kidnappent, les emmènent dans des prisons, là les maltraitent, commencent par leur demander d'appeler les familles, pour essayer d'obtenir rançon. Et si ça, s'ils n'obtiennent pas rançon, pour récupérer soi-disant leur investissement, on se demande lequel, mais en tout cas, voilà, pour récupérer leur investissement, les placent en esclavage dans des familles comme domestiques ou sur différentes missions. Voilà, ça peut être travailler dans les espaces verts ou faire ce genre de choses. Et pendant 8 mois, le jeune est comme ça esclavagisé avant d'être éventuellement récupéré et la relâcher sur un bateau pour la Méditerranée. Et c'est vrai que ça, on n'en parle pas assez. On ne parle pas assez aussi du fait que certaines personnes, en fait, allaient juste dans le pays voisin et, à cause de ces trafics humains, se retrouvent en Europe alors qu'ils n'ont pas décidé. Ce n'était pas leur destination. Et se sont retrouvés là juste au gré de... Voilà, de tous ces problèmes en fait, qui sont éminemment politiques et qui, comme le disait très bien Inès, sont complètement en lien aussi avec la France-Afrique et du coup nous re-questionnent directement sur notre responsabilité à nous aussi en tant que citoyens de ce pays.
Mmh. Inès ?
Oui, ben là, sur les actualités, je pense que on ne peut plus... je pense que beaucoup, nombreuses et nombreux sont ceux qui... savent ce qui se passe en Libye, même sans rencontrer de jeunes. Maintenant, on en a parlé dans les journaux, on en parle encore que là, actuellement, Frontex et l'ONU ont permis à la Libye qu'il devienne un pays sûr pour du sauvetage en mer. Ça veut dire que le traité d'Hambourg qui permet que le sauvetage en mer et qui permet que des gens soient amené en lieu sûr, la Libye devient un lieu sûr avec une flotte pour sauver des gens. C'est complètement antagonique en sachant que ces gens ont été armés, que c'est effectivement un pays qui est là où il y a des réelles milices qui vont employer. Enfin, voilà, c'est aujourd'hui. La Méditerranée est extrêmement dangereuse. Là, on ne peut plus faire comme si on ne le savait pas, mais on peut dire aussi que le Sahara est aussi dangereux. Les points d'eau sont contrôlés par l'ONU. Enfin, il y a mais là, c'est sur la route de la Méditerranée, mais on pourrait aussi parler de la Turquie. Enfin, ça va jamais s'arrêter, en fait. On va rencontrer des jeunes toujours, quel que soit. Et quand est-ce qu'on va prendre en compte la gravité de la situation? Là, pour l'instant, nos collectivités, dans les déclarations, parlent des flux qu'ils ne savent pas, qu'ils n'ont pas vu venir, etc. Non, c'est faux. Nous savons que les gens vont aller trouver la possibilité de travailler ailleurs, de sauver leur... d'être soutien de famille et sauver leur d'être proche de leur famille, de pouvoir sauver un enfant quand on a besoin d'un titre de séjour parce qu'on a une maladie grave ou parce qu'on a un enfant malade et qu'on va devoir quitter son pays pour que son enfant puisse être soigné. Donc on est dans des réalités là où c'est effectivement, comme tu le rappelais, des enfants des jeunes qui voyagent seuls avec toute la vulnérabilité que ça implique. On peut, par contre, il y a une réalité qu'il est important de souligner, c'est à Autonomie, on a rencontré 10 filles dans ces 600 ans, dans ces 600 jeunes qu'on a rencontrés. Donc c'est une question ouverte. Où sont les filles, les jeunes, mineures, isolées, étrangères? Où sont-elles? Elles sont forcément... Elles voyagent. Hein, elles sont à peu près 40% à voyager. Mais elles sont encore plus soumises à des réseaux de prostitution ou d'esclavage domestique, et elles sont mues à la rue de ces dispositifs de la même façon. Voilà. Est-ce que ça implique, en fait, ces lois de distinction, de faire des droits, et donc des droits, une ségrégation, en fait, entre des droits différents, entre des jeunes français et étrangers? Ça amènera qu'il y ait des enfants encore plus jeunes qui prendront la route, encore et encore plus jeunes. Du coup, de mettre des distinctions dans l'âge, dans la protection de l'enfance, quand là, ils ont arrêté, je vous parlais au début du contrat jeune majeur, quand on arrête ces prises en charge, quand on arrête ces accompagnements, ça va influer forcément à ce que des jeunes arrivent plus tôt avec voilà. Là, on rencontre principalement des jeunes qui ont entre 14 et 17 ans. Voilà, c'est des jeunes qui ont tous un projet, enfin, sans jouer avec les mots, mais les professeurs pourraient vous le dire mieux que moi, en quelques mois, ils apprennent à lire, à écrire, ont une niaque pas possible. C'est des jeunes qui sont plus que motivés. C'est, en fait, c'est notre jeunesse qui ne sait pas quoi faire et qui regarde des McDo et qui mange de la télé et qui s'ennuie. Ces jeunes-là ont toute une leçon à amener à la jeunesse française de regarder ces jeunes qui bossent pour apprendre le Becherel à la frontale dans un immeuble réquisitionné. C'est des jeunes qui vont bosser les maths, c'est des jeunes qui vont bosser l'histoire, c'est des jeunes à qui on peut reconnaître une force et une détermination qui dans leur lutte, même si ce sera une lutte quotidienne, puisqu'à 18 ans, les difficultés continueront avec la préfecture pour la suite. Mais c'est des jeunes qu'on espère en tout cas permettre d'outiller pour qu'ils puissent combattre les oppressions et les discriminations et un racisme d'État qui impose ces jeunes à être livrés à eux-mêmes et les laisser pour compte. On parle de racisme d'État, par exemple, parce qu'aucun jeune Français ne subit des tests osseux pour savoir s'ils sont mineurs ou majeurs. Jamais. On parle de racisme quand on fait subir à des jeunes des interrogatoires, quand on leur demande qu'est-ce qu'ils viennent d'arriver alors qu'on sait. On sait les parcours qu'ils ont. Mais par contre, en tant que responsable socio-éducatif ou qui que ce soit, on devrait être vigilante et vigilant et s'efforcer de savoir de quoi ils ont besoin. De quoi ont besoin ces jeunes ? De potes, comme chaque adolescent, d'amis, d'avoir des liens, de pouvoir avoir, de reconstruire un étayage et tricoter des liens qui peut leur donner chaud l'hiver, de l'attention tous les jours, de permettre d'avoir une place dans cette société. Et du coup, voilà, donc c'est un combat au quotidien. La reconnaissance de ces jeunes prend du temps, plusieurs mois. Et la bataille continue après, puisque la clé de voûte pour ces jeunes, c'est la clé à la scolarisation qui détermine après une possible régularisation par la préfecture. Donc du coup, il y a aussi des batailles sur l'accès à la scolarisation, puisque notre constitution rappelle que l'éducation, c'est un droit constitutionnel. Tout le monde peut, quel que soit son âge, son origine, sa classe sociale, peut accéder à une formation. Ces jeunes ont des places à côté de vos enfants en cours. Du coup, nous avons une page Facebook qui s'appelle Autonomie 31. Il n'y a pas besoin d'avoir un compte Facebook pour regarder cette page. On a aussi un WordPress qui s'appelle WordPress, donc Autonomie 31, où nous publions les réalités quotidiennes de ce que subissent les jeunes et comment aussi on s'organise collectivement pour dépasser la survie et vivre et permettre à un moment de lutter ensemble. Comment nous allons lutter ensemble ? Puisque cette situation de pourrissement de la situation va certainement durer pas mal de temps. Du coup, nous avons un apprentissage de comment faire avec eux, ne pas prendre trop, et de permettre à ces jeunes d'accéder à l'école, d'accéder à avoir des amis, une place dans un foyer, et de pouvoir construire, puisque l'avenir nous appartient, à toutes et à tous, de permettre d'être là. Du coup, ça demande des batailles juridiques, médiatiques, politiques. Ça demande aussi des liens du quotidien, pouvoir passer un bon moment, aller au ciné, aller au musée avec des jeunes, faire des activités, aller faire un volet sur la prairie des fils. Enfin, c'est aussi des moments aussi singuliers, comme tout n'importe quel adolescent, mais c'est aussi un collectif de lutte politique, nécessairement en fait.
D'accord. Savita, tu veux rajouter quelque chose ou
Oui, moi, je voudrais revenir effectivement sur la motivation de ces jeunes. Je suis, moi, ébahie, en fait, depuis 3 mois, de leur énergie de vie. Déjà, je pense que pour avoir traversé ce qu'ils ont traversé, sans une énergie vitale incroyable, tiendrait pas. Mais en plus, quand ils arrivent ici, ils ont une fraîcheur incroyable en fait, et une envie incroyable, une envie d'apprendre, une envie aussi de découvrir et de s'approprier les codes culturels de notre société, qui est incroyable. Ils font, enfin, évidemment, hein, c'est deux univers. Hein, quand si vous avez déjà voyagé en Afrique, vous savez de quoi je parle. Nos deux continents, ils ont beaucoup, enfin, ils ont des liens, mais ils sont très très différents culturellement. Quand ils arrivent ici, il y a plein de choses nouvelles et la manière dont ils sont gourmands en fait de découvrir la culture française, notre langue, nos expressions, comment on pense. Moi, j'ai toujours des questions sur mais vous ici, comment vous avez fait la révolution? Comment 1789 raconte? Et les droits des femmes ici racontent. Ils sont curieux en fait, et ou bien des questions aussi sur l'évolution de nos sociétés, par exemple. Mais pourquoi l'amour ici, ça marche comment, en fait? Parce que vous êtes en couple, et puis ensuite, vous vous séparez. Et en fait, on sent qu'il n'y a pas de jugement, il y a juste une envie de nous comprendre et de venir vers nous. Et aussi, moi, je suis aussi vraiment épatée de leur éducation et de la manière dont les valeurs humaines leur ont été transmises en fait par leur famille, par leur expérience de vie, et en fait, comme Inès, je trouve ça profondément nul, et je vais prendre un terme que j'aime pas, mais en même temps parlons un peu comme nos adversaires, très contre-productif en fait. Les jeunes arrivent avec plein de compétences, plein d'envie d'apprendre. En un an, ils peuvent se former à un métier, et je peux vous dire que c'est pas ceux qui l'embineront pour aller travailler, puisque ils ont une motivation mais à toute épreuve. Et nous, au lieu de prendre cette énergie cette citoyenneté qu'ils ont naturellement, et ce respect de l'autre, cette attention à l'autre permanente, cette considération toujours dans les relations humaines, ce grand... Ouais, vraiment, un positionnement que moi je trouve formidable, ça ferait des excellents professionnels, des super artisans. On manque de plombiers, on manque... De maçon. L'agence immobilière de mon appartement me disait dernièrement, mais on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à trouver des artisans pour faire nos réparations. Et nous, au lieu de prendre la motivation de ces jeunes et rapidement leur permettre de répondre à nos besoins sociétaux, on les exclut, on les casse, on casse aussi toute leur motivation, parce que mettez-vous deux minutes en situation, hein. On attend pendant 8 mois de savoir ce qu'on va devenir en ayant peur tous les jours. Moralement, ils ont une énergie vitale de ouf, mais en même temps, forcément, elle en prend un coup aussi avec tout ça. Et pour finalement, pour une partie d'entre eux, se faire carrément rejeter au bout du compte, c'est-à-dire même après recours, aide des avocats, etc. Et pas de solution, parce que derrière, on leur dit quand même, tu es rejeté, mais en plus, on te donne zéro solution. Et vraiment, en fait, on perd du temps, mais on perd surtout des ressources dont on a fondamentalement besoin, aussi nous en tant que société, économiquement et humainement.
D'accord, merci pour ces précisions et ton sens de l'humanité aussi. Allez, je vous propose de marquer une pause en chanson, et c'est pas n'importe quelle chanson, c'est HK et les Saltimbanques, et ça s'appelle « On lâche rien ». Donc c'est tout à fait d'actualité, et dans plein de domaines, que ce soit écologique, social, humaniste, culturel, parce que là aussi, il y a beaucoup de choses à faire et à dire.
Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde, on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CB à papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer, mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, on
lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.
Ils nous parlaient d'égalité, et comme des cons les a crus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond, y'a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles, on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs.
On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.
C'est tellement con, tellement banal, de parler de paix, de fraternité. Quand des SDF crèvent sur la dalle, et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider, d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix.
On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.
Ça va être à nous. Dans l'émission Et si demain non plus, ni au sein du collectif L'Autonomie 31, où l'humanité, l'humanisme n'est pas abandonné, bien au contraire, où des bénévoles, et ça encore une fois, sans bénévolat, sans association, sans collectif, la France se porterait beaucoup plus mal. Et c'est pour cela que nos chers dirigeants au niveau national suppriment des contrats aidés, par exemple. Et c'est bien dommage et dommageable, plutôt que de faire des cadeaux aux riches qui n'en ont jamais assez, tournez-vous peut-être un peu plus vers le social, vers l'écologie aussi, que vous abandonnez complètement, la culture, l'humanisme, la coopération contre la compétition. Premier, quand il y a un premier de cordée, il y a aussi un dernier. Dans une compétition, il y a quelques gagnants et beaucoup de perdants. Voilà, ça c'est dit aussi. C'est aussi le tempo de l'émission. C'est, ici, nous faisons du journalisme d'engagement, du journalisme citoyen. Et voilà. Donc nous ne sommes pas de, nous sommes pas tombés dans le chaudron de BFM TV ou de CNews. Nous sommes différents ici. Même si nous, pour, à ce jour, nous avons forcément moins d'auditrices et d'auditeurs, mais celles et ceux qui sont à l'écoute, eh bien, nous les remercions parce que sans vous, nous n'existerions pas. Voilà, ça c'est dit. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de rajouter d'important ? Mon petit doigt m'a dit qu'il y avait aussi un documentaire qui avait été tourné.
Oui, effectivement, il y a un documentaire qui donne la parole à 13 jeunes qui ont été mis à la rue par le Daomi et qui témoignent. Donc ce documentaire s'appelle « La tragédie du miel amer ». qui se trouve sur votre meilleur moteur de recherche préféré. Et vous allez pouvoir après le trouver sur YouTube en accès libre. Il est aussi sur notre page Facebook.
Tu peux rappeler la page Facebook ?
Ouais, alors je crois qu'on dit Facebook Autonomie 31. Là, la page est libre, donc vous pouvez y accéder. Il y a en première page le film. Et puis aussi, il y aura une liste de tous les besoins actualisés au bâtiment, puisque une autogestion, ou tant de être une autogestion, ça demande une organisation sur, eh bien, nous avons besoin sempiternellement de produits d'hygiène, de sacs poubelles, enfin, vous voyez, comme dans, chez vous, en fait. Un peu de la même chose, sauf que là, ça s'organise par des jeunes en autogestion. C'est une maison des adolescents où ils vont... s'organiser pour que ce bâtiment puisse exister. Donc on a toujours besoin d'ampoules, de tickets de bus et bien évidemment de vêtements adaptés à des ados, hein, parce que c'est important pour des adolescents de ne pas s'habiller comme ces vieux. Du coup, d'avoir des vêtements adaptés aux conditions météo, enfin aux conditions là, d'avoir des vêtements des shorts, des claquettes, des casquettes. Donc tout ça, c'est des dons que vous pouvez apporter en nous envoyant un petit mail ou un petit message pour qu'on puisse vous accueillir au mieux. Du coup, l'adresse mail, c'est autonomie@riseup.net. Et pareil, il paraît qu'il y a un moyen de faire des messages privés sur Facebook. Donc si vous savez faire, vous pouvez.
Peut-être par le biais de Messenger. Ce sont les messages privés.
Et
sauf erreur de ma part, je ne suis pas très doué dans ces nouvelles technologies, mais je crois que c'est ça.
Je crois que c'est ça aussi, mais je crois qu'à la table, on n'est pas très Facebook.
Mais c'est devenu un outil
De communication.
De communication. Du coup, ce film permet d'interroger donc, une pratique qui, en fait... qu'on soit travailleur social ou médecin ou avocat ou qui que ce soit, on serait bien incapable de pouvoir déterminer l'âge de quelqu'un. Du coup, ces gens ont répondu à un appel d'offres et ont accepté de faire ce sale boulot, de mettre des mineurs à la rue et de savoir quel est le bon jeune. Du coup, c'est une parole de jeune concerné qui va expliquer comment ils ont été mis à la rue, comment ils font... qu'est-ce qui se passe après cette mise à la rue et comment ils font pour s'organiser collectivement. Du coup, c'est 52 minutes qui vous donnent une réalité concrète. Et je pense que ce film-là est un outil de médiation intéressant entre les gens qui ne savent pas la réalité pour ces jeunes isolés étrangers. Ça permet de commencer à tenir la pelote de laine et après de pouvoir la déplier. Du coup, où rencontrer les jeunes sont une première accroche qui permet de prendre l'ampleur de la situation. Et à chaque fois, il faut être un peu fil de feriste, en même temps amener des actions humanitaires et en même temps amener un plaidoyer politique. Parce que sinon, ce serait très compliqué de se penser pour des sauveurs ou des sauveuses. Du coup, on est obligé de se poser des questions. Pourquoi ces jeunes sont mis à la rue? Que veut le conseil départemental? Qu'est-ce qui se passe au Daomi? Qu'est-ce qui se passe devant la juge des enfants? Qu'est-ce qui se passe à la police aux frontières? Qu'est-ce qui se passe en Italie? Qu'est-ce qui se passe en Libye? Qu'est-ce qui se passe en Méditerranée? Qu'est-ce qui se passe dans les trajets? Qu'est-ce qui se passe dans les pays d'origine? Pourquoi la Françafrique existe? Pourquoi elle existe encore? Comment ça se fait que l'armée française est toujours dans les pays d'Afrique subsaharienne? Toutes ces questions sont nécessaires pour que on puisse aussi, on peut comprendre que là, que politiquement, ça ne viendra pas de leur part, où les intérêts capitalistes ne vont pas amener une rétribution des richesses et que les multinationales ne vont pas s'arrêter comme ça, à nous de moins acheter de portables, parce que nous savons que ces gamins creusent dans les mines pour avoir des matières premières pour nos conforts et nos privilèges d'Européens. Donc à nous, à un moment, quand on sait, sur que ça soit, comme tu l'as dit, sur l'écologie ou que ça soit d'une pensée globale, qu'on essaye à un moment de se rendre compte que nous avons des privilèges et que même si ce n'est pas effectivement ce sont nos ancêtres qui ont colonisé, etc., etc., on ne peut pas y faire grand chose, mais par contre nous avons une responsabilité là actuelle de savoir qu'est-ce qui se passe, les liens entre la France-Afrique, les liens avec nos pays. Voilà, comment ça se fait que Macron, juste élu, part directement en Afrique de l'Ouest. Tout ça a du sens. Il y a des réelles des guerres politiques, comme tu le rappelais, et ces guerres n'arrivent pas par hasard. Du coup, voilà, cette lutte, elle est forcément, elle prend aux tripes parce que c'est la jeunesse. Et la jeunesse, c'est l'avenir de... La jeunesse, c'est l'avenir. Du coup, on ne peut que... être soucieuse et soucieux de qu'est-ce qui leur arrive en fait. Voilà. Et qu'on sait qu'il y a une distinction entre les jeunes étrangers et les jeunes français. L'histoire nous a montré que c'est possible, que le fasciste existe et il existe encore. Il y a 15 jours, sur les ondes des radios de masse, on entendait un front de l'Autriche, Vienne, Italie. Il est temps. Oui, c'est dramatique et très grave ce qui est en train de se passer. Nous pouvons en avoir peur, nous pouvons se faire déborder par la peur, alors qu'il y a d'autres manières de s'organiser collectivement, parce que ce sera dans des dynamiques locales que nous pouvons reprendre du pouvoir et que le peuple peut reprendre ce pouvoir. Sinon, l'État construira encore plus de centres de rétention, de prisons, et que ce sera encore des lieux privés de liberté, et que ce sera contrôlé par des sociétés, par des multinationales. Nous sommes dans ces réalités-là. Et que la France a signé la protection de l'enfance n'est pas qu'une protection comme ça qu'on mettrait symboliquement. Voilà, c'est des accords internationaux de la protection de l'enfance. Nous avons tout intérêt à déranger nos institutions, à déranger parce qu'elles ont démissionné de leur mission première pour une gestion économique. À nous, comme quand notre patron quand les patrons discriminent, harcèlent leurs salariés, les salariés n'ont pas d'autre choix et les ouvrières n'ont pas d'autre choix d'aller chatouiller leur patron. Et bien là, pareil, nous devons déranger le conseil départemental face à cette réalité qu'ils sont en train de faire subir à ces jeunes. Nous avons une responsabilité de dire non, nous ne laisserons pas faire. Nous ne laisserons pas des centaines et des centaines de jeunes, parce que ce qui se passe à Toulouse n'est qu'une... Nous avons cette focus parce que nous sommes là, ici, à Toulouse, mais cette réalité est partout dans les autres villes. Maintenant, cette année, tous les journaux parlent des jeunes isolés étrangers et nous ne pouvons plus dire nous ne sommes pas au courant. Ça y est, nous savons que des jeunes sont maltraités, des jeunes sont livrés à eux-mêmes dans la rue. Vous ne le souhaiterez ni à vos enfants, ni à vos voisins, ni à vos voisines, ni à vous-même. En fait, voilà, autant que vous vous respectez vous-même, attendons la même chose, luttons pour la même chose pour ces jeunes.
Et puis tu dis déranger, mais en fait, pour moi, c'est juste rappeler à nos institutions leur mission. Puisque en fait, il est écrit dans nos lois, hein, dans notre constitution, que tout enfant, qu'il soit français ou étranger, a le droit à la protection, a le droit à l'éducation. Donc, juste nous, en fait, au sein du collectif Autonomie 31 et les jeunes au quotidien, on ne fait que rappeler ça, en fait. On ne fait que dire, mais nous, on a envie juste que la loi soit appliquée. Et les institutions, avec leurs enjeux spécifiques et les politiques, créer autre chose. Mais donc forcément, ça dérange qu'on leur montre qu'elles ne sont pas conformes à la loi. Mais, bon, en tout cas, peut-être, Souleymane, tu veux dire quelque chose là-dessus ?
J'ai ajouté, mais c'est de remercier l'ensemble des bénévoles qui nous assistent à nos besoins du collectif. Et c'est pas évidemment facile pour nous de vivre dans cette situation. Mais toujours, il y a des aides qui viennent des bénévoles, des citoyennes de Toulouse et tout. Et nous sommes dans cette dans cette
fraternité.
Ouais, dans cette fraternité là, nous arrivons à s'en sortir quand même dans cet obstacle, dans cette difficulté quand même. Mais j'ai pas grande chose à dire. Et juste nous vous remercions au fond du cœur pour vos soutiens et pour vos fraternités.
Voilà. Bah, par rapport à l'humanisme qui a été créé, l'accueil, donc l'aide, le soutien.
Voilà, l'aide, le soutien, voilà.
Et moi, j'aimerais vraiment retourner ces remerciements, en fait, puisque c'est peut-être un témoignage très personnel, mais en même temps, je crois que Cédric Héroux témoignait un peu, pas exactement, mais en ce sens-là. Moi, pour moi, depuis 3 mois, j'ai l'impression que ces jeunes me remettent en vie. Ils me remettent en vie parce que je me sentais isolée. Avec nos vies, on est de plus en plus chacun dans nos rails, chacun dans nos petits trucs. Pour voir quelqu'un, il faut prendre rendez-vous. Des fois, on ne peut pas le voir avant une semaine, avant 10 jours. Et j'ai l'impression qu'en fait, ce qu'on perd aussi en France, c'est un petit peu le savoir-faire d'être en relation avec les autres. Faire attention aux autres et être en lien. Et en fait, eux, ils ont ça naturellement parce que dans leur pays, c'est une de leurs plus grandes richesses. Ils les ont toutes, hein. C'est le continent le plus riche du monde. Mais aussi, je trouve, humainement, ils ont énormément à nous apporter. Et moi, depuis que je suis auprès d'eux, en fait, j'ai l'impression que je reçois beaucoup plus que le tout petit peu que je peux donner. Et en fait, Cédric Héroux disait ça aussi. Il disait, mais en fait, on se sent vivant, on se sent bien, on fait ça pour nous. On fait ça pour nous parce qu'on est dans le même bateau. On sait très bien qu'on commence par attaquer les plus faibles à l'arrière du bateau. Puis on grignote, on grignote, on grignote. Mais du coup, c'est nos droits là qu'on est en train de défendre. C'est pas seulement les leurs, c'est les nôtres. On est juste en train de dire à nos institutions, vous avez été créés pour quelque chose, faites-le. Point. Parce qu'après, c'est pour nous aussi que vous ne le ferez plus. Et aussi parce que humainement, moi, personnellement, ils m'apprennent ma vie. Ils m'apprennent à être en lien avec les autres. Parce qu'aujourd'hui, ma société, elle me désapprend ça avec Facebook, avec l'espèce de précipitation et puis d'isolement qui grandit, même au sein de nos propres familles, des fois. Ils ont une manière d'être. Ils nous réapprennent aussi l'esprit de famille, l'esprit d'entraide, l'esprit humain. Et pourquoi passer à côté de ça ? Pourquoi passer à côté de ça ?
Est-ce que ce n'est pas voulu justement par le biais de ces nouvelles technologies ? Moi, j'ai toujours en tête une phrase de Christian Bello, qui est un chercheur qui a eu de gros soucis parce qu'il a dénoncé les cultures des organismes génétiquement modifiés en plein champ et qui disait, attention, il ne faut pas confondre le modernisme avec le progrès. Et on fait passer souvent le modernisme pour du progrès. Or, je pense que dans ce que tu as dit là, ça me renvoie au fait que je le dis un certain nombre de fois. C'est voulu, toutes ces nouvelles technologies, y compris que demain, et j'ai lu encore des articles récemment, moi j'avais écrit une fiction dans ce sens, mais le présent, la réalité a dépassé ce que j'avais écrit, c'est qu'aujourd'hui on est en train de nous pucer un petit peu partout et de nous mettre aussi ces petits objets microscopiques, nanoparticules dans notre corps pour aussi nous diriger, nous manipuler. Et j'ai toujours en tête aussi cette phrase, cette citation de Pierre Rabhi, donc qui est un vrai paysan, un philosophe, un écrivain, qui dit que de plus en plus de personnes vivent hors sol, c'est-à-dire effectivement déconnectées d'une réalité, de nos racines. Et c'est sans doute pas un hasard. C'est politique aussi. Et donc c'est à nous, effectivement, à nous réparer. Et encore, je vais citer cet exemple que j'ai déjà cité, mais c'est tellement flagrant, moi, ça m'a tellement sauté aux yeux, aux oreilles, que sais-je, le fait que le gouvernement, l'État n'ait accepté aucun projet collectif à Notre-Dame-des-Landes, ce n'est pas neutre. Ils n'ont accepté que les projets individuels, mais du collectif pour créer de la culture, pour créer aussi toute une des formes de coopération, de coopératives, mais des vraies coopératives, pas des coopératives comme l'Imagrin ou le Crédit Agricole, qui sont de fausses coopératives. Tout ça, finalement, le collectif, l'entente, l'entraide, tout, tout ça fait peur au pouvoir. Donc, à mon avis, c'est pas un hasard. Donc, c'est à nous, effectivement, citoyennes et citoyens aussi, journalistes et autres, à réagir et à pas nous laisser manipuler, parce que, mine de rien, je vois poindre, alors c'est pas la même que dans un certain nombre de pays, mais quand même une forme de dictature. En tous les cas, c'est moi, mon questionnement, et c'est pour ça que j'essaie, dans la mesure de mes moyens, aussi de servir de passeur ou de passerelle à travers les émissions, parce que c'est important.
Ben, moi, j'ai l'impression que dans chaque moment où l'humanité a vécu du totalitarisme et des grandes tragédies, ce qui l'a sauvé, c'est l'humain. C'est les humains qui restent conscients qu'ils sont humains et qui restent conscients que la personne en face d'eux est un humain. Et quand on garde cette conscience de l'autre, pour moi, ben voilà, c'est aussi ce qui nous permet... d'éviter qu'elles se créent, et puis quand elles arrivent, de traverser et de les transformer.
Inès, quelque chose à ajouter? Il nous reste aller 2-3 minutes. Tu as envie de dire encore aux auditrices et aux auditeurs de l'émission Ici Demain sur Esprit Occitanie, et pareil, Souliman.
Eh bien, oui, puisqu'on est dans un contexte toulousain, il me paraît important de rappeler que Toulouse Métropole a attaqué ces jeunes par un huissier, donc par voie juridique, au tribunal d'instance. Il y a eu 4 audiences reportées. Il y avait une demande d'évacuation de ces mineurs. Donc la première audience était le 23 décembre. Symboliquement encore, on pourra... apprécier que quand beaucoup de personnes sur notre territoire vont manger du foie gras et fêter des fêtes en famille, eh bien, ceux qui partagent la réalité des plus vulnérables, eh bien, c'est cette justice et ce système qui continue d'écraser tous les jours un peu plus les plus précaires. Du coup, ces jeunes ont pu construire une défense. Actuellement, après 4 reports, la mairie, le Toulouse Métropole s'est dessaisie de cette affaire pour que la mairie reprenne ce bâtiment. Du coup, nous voulions aussi vous dire qu'il faut faire attention que nos solidarités ne soient pas reprises par les institutions, puisque les institutions veulent effectivement, actuellement, dans ce que nous voulons, faire du contrôle et de l'expulsion. Du coup, nous avons besoin de réinventer une manière de nous organiser, de lutter ensemble et de se rencontrer d'essayer le plus possible d'avoir un rapport de force, et peut-être qu'on n'arrivera pas à s'entendre sur tout, avec tous nos bagages politiques et nos billes et nos parcours et nos singularités, mais en tout cas pour éviter que justement ce qui est encore du sens dans la solidarité ne soit pas rattrapé. Je dis ça puisque le conseil départemental fait signer des contrats de parrainage à des hébergements solidaires et qui sont pris dans une relation affective après avoir hébergé ces jeunes longtemps, et qu'on oublie de remettre les responsabilités vers le droit commun. Donc nous avons cette exigence-là à chaque fois, de savoir que si même si on passe un bon moment, on fait un geste qui serait solidaire, il faut continuer de le mettre en miroir avec une réflexion politique. Politique, ça ne veut pas dire politicienne, hein. Ça veut dire de quelles sont les conséquences de ce que je fais. Du coup, il faut savoir dire non au conseil départemental, savoir dire non à la police aux frontières, dire non à cette... pour ceux qui sont étudiants et qui font des études dans l'établissement des arènes et qui nous font la technique aujourd'hui, parlez-en dans vos écoles, qu'il y a des jeunes qui sont à peu près le même âge que vous, ou plus jeunes ou plus loin, et qui ont fait un film, discutez-en, que vous, jeunesse aussi, vous vous saisissez de ces sujets. Parce que sinon, ça nous pète ça va nous péter à la gueule, quoi.
D'accord, merci pour ces précisions. Inès, Savita, tu avais envie de rajouter un mot?
Moi, je voulais juste rajouter qu'en fait, toutes ces luttes et ces sujets assez graves, hein, qu'on est en train de discuter, Ils sont pas. Enfin, au quotidien, c'est aussi traversé de plein de joie. C'est-à-dire que être au contact des garçons, c'est au quotidien aussi être dans la joie et dans le plaisir juste de partager des moments de vie ensemble. Enfin, quand on donne des cours de français, quand on part à un concert gratuit sur Toulouse, quand on part à la campagne. Voilà, enfin, il y a l'aspect lutte qui est très important, mais il faut savoir aussi qu'il y a aussi l'aspect juste partage qui apporte aussi beaucoup de joie et qui nourrit complètement aussi l'énergie de la lutte.
Souleymane, tu voulais rajouter quelque chose ?
Non.
Merci d'être venu. Alors, je à ce micro dans ce studio d'Esprit Occitanie. Alors, même si nous n'avons pas pu l'avoir au téléphone, je vous en parlerai, je pense, aussi vendredi matin, puisque je vous donne rendez-vous dans mon autre émission Traversée, en direct entre 10h et midi aussi. Et c'est Les Vieux Démons d'Yves Carchon, et c'est publié aux éditions du Cairn. Et c'est un polar, mais très intéressant, parce qu'il y a aussi du social et du politique dedans, du politiquement incorrect. Comme le sont parfois nos élus, et notamment ceux qui avaient créé l'OAS, par exemple. Merci Alain Delahaye et Valentin Sirugue pour la réalisation technique, et au plaisir de vous retrouver donc vendredi matin. Merci Savita, merci Inès, merci Souleymane, et à très vite, et en tous les cas, vendredi matin pour Traverser. Vous retrouverez l'émission en podcast sur www.espritoccitanie.fr, à l'indicatif signé de Damien Moreto. Bye bye.
Merci.